94.3 FM à Québec.
Bord de la Réveillère Saint-Charles, boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Et oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des Kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce jeudi 27 janvier 2022 et j'ai la chance, le plaisir et le grand honneur d'être en compagnie de Charles-Étienne Ostigui. Salut, comment ça va?
Ça va super bien, j'espère que ça va bien chez nos auditeurs aussi.
Ben oui, on salue tous nos auditeurs, nos auditrices à la maison et sur la route, peu importe où est-ce que vous nous suivez, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une journée actualité très, très, très intéressante. On va parler de santé, continuer à couvrir les actualités coronavirales pour vous, mais dans les choses qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment les réactions qu'ont les gens face aux mesures sanitaires, entre autres avec le convoi de camionneurs qui se dirige présentement vers Ottawa pour tenter de manifester contre une imposition de la vaccination aux camionneurs et aux camionneuses. La ministre Mélanie Joly a dit qu'elle ne voulait pas un 6 janvier canadien en référence à l'assaut sur le Capitole qui s'est déroulé l'an dernier aux États-Unis. Plus que ça, les gyms, plusieurs gyms au Québec veulent rouvrir avant l'annonce du déconfinement par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va également se diriger en politique. Les élections s'approchent au Québec et ça se voit. On a donc des propositions par le Parti québécois pour la refondation du système de santé, mais on a également Québec solidaire qui veut mettre de l'avant le coût de la vie comme étant vraiment l'enjeu principal. Manon Massé s'inquiète pour les plus démunis. Du côté du Parti libéral, Dominique Anglade veut mettre l'argent du troisième lien dans l'éducation et la santé. Donc, on a quand même beaucoup de choses à traiter en politique. En économie, la Banque du Canada a donné toutes les raisons pour rehausser le taux directeur et ne le fait pas. on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et on devrait terminer en international. La crise en Ukraine, les élections potentielles qui s'en viennent au Royaume-Uni, Également des nouvelles à propos de la Thaïlande. Un petit peu, on se va se déplacer un petit peu partout sur la planète. On donne des nouvelles sportives, environnementales, culturelles. Tout ça et bien plus à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. Mais avant toute chose, on va aller écouter une chanson de Michael Richer. On va aller écouter Tragique et on vous revient tout de suite après sur les ondes de Chiz 94.3. Et sa chanson Tragique à Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. Et Charles, on rigolait un petit peu hors d'onde parce que on la connaît tous les deux,
ouais.
Cette artiste-là, entre autres parce qu'on est allé au même cégep. C'est assez spécial tout ça, mais on va quand même revenir à un sujet un petit peu plus sérieux. On va retourner en actualité coronavirale et on commence avec les chiffres du jour, si tu le veux bien. Donc, dans les 24 dernières heures, le Québec recense 56 décès supplémentaires qui sont à déplorer et on a 117 hospitalisations, ouais, de moins. Donc, on a quand même encore 3153 personnes qui sont hospitalisées. Ça reste énorme. Donc oui, on a une certaine baisse des hospitalisations. C'est une baisse de 8% sur une semaine, une baisse de 18% aux soins intensifs, mais ça reste bien, bien, bien plus que ce que le système est capable d'absorber présentement.
Oui, mais dans les bonnes nouvelles qu'on ne souligne pas, je pense que personne n'en parle, c'est ça fait bientôt deux semaines que les écoles sont rouvertes, les écoles primaires, puis ça semble pas avoir eu une incidence du moins là, à court moyen terme, sur les hospitalisations. Peut-être que dans une semaine, on va parler d'un tout autre scénario, puis qu'on regardera mon affirmation de cette semaine comme étant une aberration. Mais c'est quand même un bon signe.
Oui, effectivement. Et ça, c'est quand même relativement étonnant, considérant que depuis deux semaines, tout ce qu'on voit par rapport aux écoles, c'est des élèves en manteau d'hiver dans leur classe parce que leurs fenêtres sont ouvertes.
Ouais, non, exactement. Puis non seulement ça, mais actuellement, la vaccination va vraiment bon train. Là, on atteint assez régulièrement le 80 000 doses administrées par jour. Donc, c'est environ un peu moins d'un pour cent de la population qui reçoit au moins une dose au courant de la journée. On réalise aussi actuellement que la troisième dose a en effet un effet. Vraiment, les statistiques qui ont été compilées, si je ne m'abuse, par Le Devoir ou La Presse. C'est La Presse, excusez-moi. Essentiellement, on vient de dire que c'est extrêmement efficace contre les décès. On remarque surtout dans les populations les plus âgées, les 80 ans et plus, les personnes qui ont une triple dose ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances de se retrouver ben mort, là. Donc,
Ben, non seulement ça diminue le taux de décès, mais ça diminue le taux de personnes aux soins intensifs, le taux de personnes hospitalisées. Et on pouvait lire ça dans les journaux plus tôt cette semaine. Une des raisons pour lesquelles la cinquième vague a frappé aussi fort et a fauché autant d'âmes au Québec, c'est parce que on a donné cette troisième dose-là en ultra priorité aux personnes dans les CHSLD, dans les RPA, pour ne pas répéter l'erreur de la première vague. Mais on a attendu trop longtemps pour la donner aux personnes de 70 ans et plus qui restaient chez eux, qui étaient encore à la maison, qui étaient encore dans la communauté. Ces personnes-là représentent environ 60 % des décès de la cinquième vague. C'est vraiment très, très énorme comme nombre. Donc, on se demande c'est quoi qui fait la différence entre les personnes âgées de 70 ans et plus qui restaient chez eux et ceux qui restaient dans les RPA ou dans les CHSLD. Mais la différence, c'est la date du vaccin.
La différence, quant à moi, ça peut aussi être le fait qu'il y avait une pression politique justement pour des actions en CHSLD dans les résidences pour personnes âgées. Donc, on a vraiment mis tous nos efforts là-dessus pour éviter un autre scandale. Mais bon, malheureusement, je peux déjà entrevoir là, dans quelques mois des remises en question de la gestion pandémique de la cinquième vague, peut-être des remises en question de la légitimité du gouvernement Legault sur cette question-là. Mais bref, on divague. Sur un autre aspect quand même positif, c'est l'arrivée du médicament Paxlovid au Canada, donc le médicament anti-COVID, qui est quand même surnommé amicalement là, la pilule du lendemain de la COVID. Essentiellement, c'est un traitement qui coûte 12 500 $ par administration. Dans les hôpitaux, on considère que c'est quand même avantageux compte tenu qu'une hospitalisation coûte en moyenne 21 000 $. Donc, on va sauver sur les coûts overall. Ceci étant dit, pour la plupart des personnes qui sont non vaccinées, on croit que ce traitement-là sera pas particulièrement efficace. La raison est assez simple. C'est à cause que les personnes non vaccinées souvent vont être réticentes à observer leurs symptômes, se faire tester adéquatement. Et lorsqu'elles vont se présenter aux urgences, ce sera déjà trop tard pour leur administrer ce soin-là qui peut pas être administré vraiment quand les symptômes sont déjà très, très virulents et importants.
On parle vraiment d'une pilule qui doit être administrée quoi, 24-48 heures maximum après avoir été affectée?
Je pense pas que c'est surtout avant l'apparition de symptômes que c'est important de l'avoir. Donc, des personnes qui peuvent avoir, par exemple, un doute et ils sont allés dans un grand rassemblement puis qui savent que peut-être que j'ai contracté la COVID ou qui ont été cas-contact et que c'est à ce moment-là qu'ils vont se tester, c'est là que le traitement de la Paxlovid va être le plus efficace selon les études jusqu'à présent. Ceci étant dit, là, je veux pas m'improviser expert pharmaceutique, là. Donc, je ne veux pas que les personnes dans l'auditoire puissent prendre mes conseils comme étant essentiels. Si jamais vous avez été cas-contact, prenez bien le temps de vous tester et voir si ce traitement-là peut être bénéfique si jamais des symptômes commencent à apparaître.
Oui, effectivement. Et c'est surtout alors que les tests rapides sont de plus en plus disponibles présentement au Québec. On reçoit 3 millions de doses par semaine présentement. On avait...
De tests.
3 millions de tests, ouais. Désolé. On avait des problèmes importants de pénurie plus tôt ce mois-ci. On commence à s'enligner vers une baisse de cette pénurie-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'on a 23 000 personnes qui ont décidé de déclarer officiellement leur test rapide. C'est quelque chose qu'ils ne sont pas obligés de faire. Mais quand même, c'est plutôt, je vais dire, une bonne chose parce qu'on n'avait pas les données. Et on n'a toujours pas les données pour le nombre réel de cas qui se passe présentement au Québec.
Oui, mais malgré tout, moi, je regarde les statistiques justement de ces divulgations-là dans les 48 dernières heures. On parle de 23 000 tests révélés en un taux de positivité quand même très, très élevé. Là, donc, on parle de 1 000 cas sur les 23 000 qui auraient été détectés. Ceci étant dit, c'est de l'autodéclaration. On n'a aucune connaissance par rapport à la fiabilité des tests. En soi, il y a beaucoup de doutes par rapport à la fiabilité du test en soi, pas juste l'auto-administration, mais juste la science derrière.
Oui, simplement parce que le test est moins précis base, et ensuite, il peut y avoir toutes sortes d'erreurs de manipulation. Si je me souviens bien de ma science et technologie secondaire 3, ça fait partie des causes d'erreurs les plus fréquentes.
Exactement. Pour l'avoir effectué moi-même, l'autotest récemment, je peux dire que c'est quand même probable qu'un utilisateur moyen fasse des erreurs, compte tenu que je suis un utilisateur moyen et que j'ai fait des erreurs.
Donc, merci de nous servir de test.
Mais sinon, pour peut-être un peu changer de sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de statistiques d'hospitalisation, là, j'ai envie de parler plus de mesures, compte tenu qu'actuellement, je dirais qu'il y a énormément de grogne à ce niveau-là. Puis avant de parler du convoi, je pense que c'est un gros sujet en soi, là, je pense que c'est quand même assez controversé. J'ai envie de parler des gyms,
définitivement.
Oui, on a plusieurs gyms dans les derniers jours qui ont affiché sur leurs réseaux sociaux qui allaient ouvrir à partir du 30 janvier, un peu faisant écho à ce qu'on entendait des restaurateurs dans les dernières semaines. Les gyms qui disent qu'ils font en quelque sorte partie de la solution, qu'on les a un peu lassés en pâture lorsque le méga gym fitness de Québec a été un peu pris en plein milieu d'une controverse l'été dernier. Donc, ils se sentent un peu comme des victimes collatérales, puis ils ont vraiment l'impression qu'on affecte tout plein de personnes et la santé mentale de plusieurs adultes en ne permettant pas au gym de rouvrir. Je sais pas si tu as un avis là-dessus ou une...
Ben, c'est ça. J'en ai discuté avec une amie qui fréquentait justement un des gyms qui veut rouvrir.
Oh.
C'est ça. Ça donne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le message en tant que tel, le message de réouverture, il est déjà critiqué sur les réseaux sociaux présentement comme étant, entre autres, grossophobe. On parle du fait que on peut aller consommer de la malbouffe, on peut continuer à avoir des mauvaises habitudes de vie facilement avec les mesures sanitaires, on peut laisser les gens devenir obèses, mais on ne peut pas les laisser se prendre soin d'eux grâce au miracle du gym. C'est essentiellement ça la teneur du message qui est partagé par les différents gyms qui veulent rouvrir le 30 janvier prochain. Donc ça crée une controverse non seulement à cause du non-respect des mesures sanitaires, mais ça crée également une controverse à cause du langage et du type d'argument qui est utilisé dans ce genre de message.
Oui, c'est peut-être un argument, en effet, qui manque de sensibilité dans l'approche, comme si c'était vraiment la responsabilité individuelle de garder son corps en bonne santé. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même pour plusieurs personnes, le gymnase, c'est l'endroit par excellence où justement se garder en forme. Puis c'est pas juste bon pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Je pense en effet qu'il y aura probablement des gros problèmes de santé en matière... Probablement qu'on verra une hausse de l'obésité justement, qui est quand même une comorbidité importante en matière de COVID-19 et une comorbidité en matière de maladies cardiovasculaires.
Donc, on sait que chez les jeunes, on voit une augmentation importante de la sédentarité. Ça, on le voit définitivement.
Oui.
On le voit déjà. On est déjà capable de le mesurer.
Puis
il y avait un article...
On se battait contre ça avant même la COVID.
Oui, effectivement. Oui. Donc maintenant, c'est sûr que ça n'aide pas. C'est une des raisons qui a poussé le gouvernement à rouvrir les sports pour les jeunes, pour les moins de 18 ans. Et peut-être pour les cégeps et les universités, c'est pas encore très, très clair. D'ailleurs, parlant de cégeps et universités, comme on est une radio universitaire, on va quand même faire le petit détour. Le syndicat étudiant de Concordia, la Concordia Student Union, CSU, faire court, a appelé à des cours commodo pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des cours qui peuvent être suivis à la fois en ligne ou en présentiel. Le but, c'est d'accommoder le plus possible les étudiants et étudiantes qui ne se sentent pas à l'aise, qui ne se sentent pas en sécurité de revenir sur le campus, particulièrement ceux et celles qui ont, par exemple, des comorbidités ou qui ont des facteurs de risque supplémentaires alimentaire.
Ou des proches à risque.
Et des proches à risque. Et c'est vraiment un discours qui est aux antipodes des propriétaires de gym qui disent non, faut rouvrir plus vite. Là, on a une association étudiante qui fait comme hey, est-ce qu'on peut rouvrir moins vite? Est-ce qu'on peut attendre d'être plus en sécurité? Est-ce qu'on peut attendre d'être sûr que tout va bien aller?
Je pense qu'actuellement, la réouverture se fait au rythme où les gens le souhaitent en ce que tout le monde prend son risque en fonction de sa situation. Moi, par exemple, je suis un étudiant qui n'a pas beaucoup de contact avec des personnes à risque. Donc, mon facteur, puis j'ai eu ma troisième dose ce mardi. Donc, mon facteur de risque est quand même, si je le contracte, les chances, j'ai des complications, quoi que ce soit. Donc, je suis quand même à l'aise à voir certaines personnes dans des contextes peut-être un peu moins habituels en termes de COVID. Mais il y a d'autres étudiants, justement, qui vont avoir des gens à la maison qui sont à risque, qui vont eux-mêmes être à risque ou ils ont peut-être une anxiété par rapport au retour en classe. Donc, je pense qu'en effet, le format hybride ou comodal peut être vraiment intéressant. Mais ça va aussi dépendre. Ce que je trouve un peu particulier avec les universités montréalaises qui en parlent, c'est qu'à Montréal, j'ai l'impression que c'est moins commun les personnes qui habitent vraiment dans des régions éloignées puis que c'est peut-être un peu plus une grosse... c'est une question complexe pour eux de retourner à Québec ou de retourner à Montréal puis de s'installer puis d'étudier. Là, c'est vraiment pour éviter la présence de personnes et des salles de classe remplies d'étudiants qui pourraient potentiellement donner la COVID à d'autres.
Oui, effectivement. Et parce qu'on sait que juste à l'Université de Montréal, il y a des amphithéâtres à 500, 600 places.
Ouais.
Des choses qui n'existent pas, par exemple, à l'Université du Québec à Rimouski ou même à l'Université de Sherbrooke. Alors que... Et c'est ça qui pousse quand même l'Université de Montréal. Il y a présentement une pétition qui circule qui a déjà recueilli plus de 2100 signataires pour pousser vers des cours en mode comodal. Une autre pétition circule présentement à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là. Il existe dans les différentes universités. On sait qu'ici, à l'Université Laval, c'est une université qui est particulièrement poussée vers l'enseignement comodal, vers l'enseignement hybride. Donc, il y a moins de mouvement de la part des associations étudiantes de ce côté-là. Mais c'est simplement parce que le service c'est déjà offert aux étudiantes et étudiants. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que tous mes cours, même ceux qui devaient se donner en présentiel, j'ai toujours l'option d'y aller, de ne pas y aller, de les suivre en mode synchrone ou en mode asynchrone. Si je suis malade, si j'ai autre chose, si j'ai peur pour ma santé, je peux toujours décider de le suivre en ligne. Donc, est-ce que d'autres universités pourraient emboîter le pas à ça? Personnellement, je pense que ça pourrait être une pas pire idée.
Oui, je pense que pour le reste de la session, pour plusieurs étudiants, ça pourrait être super intéressant. Donc, c'est à voir comment est-ce que les autres universités vont réagir, mais même son de cloche de mon côté, là, la majorité de mes cours sont en mode hybride, même ils le sont tous. Donc, voilà pour ça. Passons maintenant au fameux convoi de camionneurs. Je pense que ça, c'est la grosse question. Ça aussi, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On a une pensée pour Elisabeth Rioux et le fait qu'elle ne souhaite pas défendre la cause Black Lives Matter, mais lorsque vient le temps de parler de camionneurs, voyons donc pourquoi les médias n'en parlent pas. Enfin, je vois.
Je dois avouer que je sais même pas c'est qui Elisabeth Rioux.
Oh mon Dieu, Guillaume, je t'invite à tomber dans ce rabbit hole d'Instagram qui est la vie d'Elisabeth Rioux.
Je dois être trop vieux, je n'ai pas Instagram. Je m'excuse à mes auditeurs et auditrices de ne pas suivre.
Je suis vieux que toi, Guillaume. Moi. Voyons donc. Fausse excuse. Mais bref, actuellement, là, il y a en fait, pour ceux qui n'ont pas le contexte, là, il y a un convoi de la liberté qui est parti de l'Ouest canadien de l'Alberta. C'est un convoi qui, quand même, qui a reçu l'approbation.
C'est de la Colombie-Britannique. Ils ont traversé les Rocheuses.
Traversé les Rocheuses, mon chum. Et puis, il y a tout plein de politiciens conservateurs du centre du Canada qui ont appuyé la principale revendication de ce convoi-là, à savoir que l'obligation de vaccination pour les camionneurs transfrontaliers soit levée. C'est une obligation, donc, qui n'est pas seulement imputable au gouvernement canadien, mais aussi au gouvernement américain. Donc,
oui, qui se sont concordés pour que cette mesure arrive en même temps dans les deux pays. Donc, c'est une juridiction qui est fédérale dans les deux États. Donc, les camionneurs qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, et ils sont nombreux, doivent être pleinement vaccinés. Ouais. On parle de 10 % qui ne le sont toujours pas présentement. Donc, c'est une mesure qui touche environ 16 000 personnes au total, mais il y a quand même un convoi de camionneurs très important qui y va. Et le point, c'est que ça commence à être fracturé selon des lignes très très, très partisane, ce conflit-là.
Oui. En fait, la vice-chef du Parti conservateur a appuyé le mouvement. Il y a des premiers ministres albertains qui ont appuyé justement la revendication, à savoir la levée de l'obligation vaccinale pour les conducteurs. Il y a un convoi québécois qui va partir des postes frontaliers du Québec vendredi matin pour rejoindre leurs confrères à Ottawa lorsque ça va converger samedi. Et le convoi principal qui est en chemin actuellement à partir de l'Ouest canadien, selon le Toronto Star, ferait une vingtaine de kilomètres déjà. Donc, les autorités sont sur le qui-vive à Ottawa, Gatineau et dans les environs pour se préparer à de potentiels débordements, surtout à des problèmes en matière de circulation. Mais pour ce qui est des débordements, il faut dire que les organisateurs vraiment s'assurent que les personnes qui se joignent au convoi soient inscrites et que ces personnes s'engagent à ne pas faire de casse. Bon, on parlait de Mélanie Joly là, qui a affirmé qu'elle ne souhaitait pas avoir un 6 janvier à la canadienne. J'ose espérer que ça se produise pas, mais je pense qu'on a quand même les ingrédients qui sont quand même réunis, puis ça prendrait quand même une de personnes qui sont un peu plus crainquées lors de ce rassemblement pour directement devant le Parlement potentiellement faire des débordements.
Oui, effectivement. Et cette pincée de personnes, on la sent déjà qui existe sur les internets. Il y a déjà des personnes qui appellent à utiliser les camions comme des camions béliers sur le Parlement. On a également plusieurs commentaires qui associent le ministre des Transports, Monsieur Al Ghabra, à un terroriste qui veut affamer la population canadienne. On partage également des images d'étagères vides en disant que c'est de la faute du premier ministre Justin Trudeau lui-même en personne. Justin Trudeau a dit qu'il s'agissait de désinformation.
Oui.
Si on regarde effectivement, les pénuries alimentaires sont très peu nombreuses et fortement localisées. Donc, il n'y a pas de pénurie alimentaire généralisée et surtout, il n'y a pas de pénurie de... en fait, les gens ont assez à manger. Juste qu'il y a certains produits qui peuvent parfois manquer. On n'est pas sûr d'avoir toujours des oranges ou des bananes, mais on est capable de vivre en mangeant d'autres fruits, en mangeant d'autres légumes. On manque pas de pain, on manque pas de viande. Faut juste peut-être se tourner vers des aliments auxquels on est moins habitué. Mais présentement, c'est pas quelque chose qui est trop problématique. Alors, effectivement, d'avoir ces appels, c'est quasiment des incitations à la haine envers le ministre des Transports, envers le premier ministre, on peut comprendre que ça puisse susciter la panique.
Oui, puis il faut quand même dire qu'un des organisateurs dont le nom m'échappe, là, malheureusement, j'ai pas la source devant les yeux, mais essentiellement, c'est une personne qui est issue des mouvances d'extrême droite, là, donc qui était liée au Maverick Party, mais au-delà de ça, qui pousse les thèses du grand remplacement. C'est un militant albertain du nom de Patrick King, qui était un des cofondateurs du mouvement Wexit Canada, là, donc l'espèce de Brexit de l'Ouest canadien. Donc, lorsque tu mentionnais justement là, tout l'aspect un peu identitaire, j'utilise le terme raciste là, très clairement par rapport à M. Al Ghabra, ça peut quand même être une des pistes à observer. Puis pour revenir sur la question des pénuries, en fait, selon à peu près tous les propriétaires qui ont été sondés là, de supermarchés, il n'y a pas vraiment un problème à savoir qu'ils ne seront pas en mesure de desservir leurs clients, comme tu le mentionnes, il y a certains produits qui vont manquer, mais c'est pas le problème de l'imposition de vaccins, c'est 10% des conducteurs qui ne sont pas vaccinés. Certes, ça a fait monter les prix compte tenu qu'il y avait moins de disponibilité, mais en soi, il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement à ce niveau-là. C'est vraiment toute la chaîne qui est déjà affectée, puis le manque d'employés selon les propriétaires d'épicerie et les personnes dans la chaîne
Oui, et également les conséquences des changements climatiques. On pense par exemple aux inondations massives en Colombie-Britannique. Ben, ça a eu un impact sur le port de Vancouver. Même chose dans l'Est, dans les Maritimes. Il y a également eu des inondations, les feux de forêt cet été, le blocage du canal de Suez également.
Oui, ça aussi. La sécheresse en Californie, on l'oublie, mais l'hiver, là, tous vos beaux fruits et légumes, là, pour la plupart, proviennent de la Californie, du Mexique et des serres canadiennes et québécoises. Donc, la Californie, c'est notre plus principal pourvoyeur de fruits et légumes.
Avec la Floride également.
Avec la Floride, oui. On salue les oranges. Mais essentiellement, Je vous conseille fortement d'aller faire des petites recherches sur la situation de la sécheresse dans les 5 dernières années en Californie. Le lac Mead, notamment dans le Nevada, qui approvisionne la ville de Las Vegas, mais aussi une bonne partie du sud de la Californie, est à son point le plus bas historiquement. Là. Donc, on est vraiment dans une situation assez critique de ce côté-là et ça affecte ce qui se passe dans nos épiceries et le coût de la vie.
Oui, effectivement. L'autre jour, j'étais à l'épicerie, j'ai vu des barquettes de framboises à 6 $ la barquette. Ça commence à faire cher. Ça commence à faire très, très cher de la framboise. Donc, justement, on dit on peut se tourner vers d'autres fruits, d'autres légumes, d'autres produits auxquels on est un peu moins habitué. On va terminer ce segment santé et contestation avec un petit fait divers. Le CHU de Québec est poursuivi pour 15,6 millions de dollars. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant la première vague de la pandémie, le CHU de Québec, l'hôpital sur le boulevard Laurier, a commandé pour 30 millions de dollars de masques N95 à un publicitaire dont ce n'était pas l'apport principal, mais qui disait avoir des contacts en Chine pour être capable d'en fournir. Il a donc payé 30 millions de dollars le jour même de la commande. Deux jours plus tard, la Chine ferme ses frontières pour assurer la qualité de la livraison des masques N95, entre gros guillemets. Le fournisseur doit se tourner vers des masques N95 américains qui ne sont pas exactement la même cote. Le CHU de Québec refuse ces masques-là, demande à être remboursé, n'est pas remboursé. Et là, le fournisseur poursuit le CHU de Québec parce qu'il a tout de même transporté les masques. Il les a transportés par avion à 770 000 $ du vol d'avion. Et donc, il demande à être remboursé pour ses frais de transport, alors que le CHU de Québec demande à être remboursé parce que finalement, il n'y a eu aucun masque de toute cette histoire-là. C'est assez fou comme histoire quand même.
Ouais, puis bon, ben naturellement, je me demande si une des deux parties pourra invoquer la force majeure dans cette... la force majeure étant la situation dans laquelle une circonstance plus grande que nature nous a empêchés de remplir une obligation. Ici, ce serait peut-être l'indisponibilité des N95 pour le fournisseur. Pour le CHU de Québec, justement, l'obligation d'avoir des N95 à proprement dit, selon le protocole. Enfin, on verra comment ça va se dérouler, mais toute une histoire, en effet.
On va prendre une petite pause publicitaire et musicale, si tu le veux bien, Charles-Étienne.
Ben oui,
on va revenir tout de suite après avec des nouvelles politiques. On va parler du tramway ici à Québec, mais on va également commencer à sortir notre bonne vieille boule de cristal pour les élections provinciales qui vont avoir lieu dans moins de 9 mois ici au Québec. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur apport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les lundis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
bonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité en compagnie de Guillaume Bédard et Charles-Étienne Ostigui. On écoutait Situ de Beat Sexu et on va, avant de se plonger dans nos actualités politiques, on va faire un court détour par les faits divers. Vraiment, je ne sais pas comment d'autres décrire ça. On va aller se pencher sur le cas de James William Awad, anciennement prénommé Kevin, qui est ce jeune influenceur, entrepreneur de 28 ans qui est tombé dans l'œil du public pour avoir organisé en début de janvier un vol pour influenceurs sur les ailes de Sunwing. Ce vol qui a complètement dérapé. On voyait justement une myriade de jeunes gens en train de faire la fête, vapoter, boire, danser.
Toute une histoire.
Dans ce vol, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, les avait qualifiés de sans-dessin et ostrogoths. Quand même une bonne insulte du capitaine Haddock. C'est assez incroyable comme histoire. Et ensuite, les médias se sont penchés sur le cas de, justement, James William Awad. Hier, la presse a sorti un grand dossier qui tentait de comprendre comment est-ce qu'il avait fait sa fortune. La réponse était... on sait vraiment pas, parce que son explication ne tient toujours pas la route. Il dit être propriétaire de plusieurs compagnies, mais comment est-ce qu'il a fait pour partir ces compagnies? D'où vient son argent? Ce n'est toujours pas clair. Là, il dit aujourd'hui vouloir poursuivre Sunwing pour le vol qu'il a organisé.
Pas tout à fait. En fait, c'est une poursuite pour Contraire Canada et Sunwing qui serait intentée pour le refus d'avoir de rapatrier les fêteurs. Pour être franc, là, j'ose espérer que lui et ses avocats se sont penchés de fond en comble sur les conditions, parce qu'on s'entend que tous les voyageurs, tous les transporteurs aériens avaient des conditions propres à la COVID-19 pour accepter ou ne pas accepter des personnes d'embarquer sur des vols commerciaux. Puis dans l'instance, ce qui se produit, c'est que on a plus d'une centaine de jeunes fêteurs qui ont d'ailleurs, pour la plupart, contracté la COVID dans le processus, qui se voient refuser des vols. Donc, peut-être que M. Awad pourra avoir gain de cause, à savoir que peut-être que les deux compagnies ont refusé de les rapatrier pendant trop longtemps. Mais je serais quand même là, assez surpris que ça, c'est mon humble avis à moi personnel, là, sans vraiment connaître tous les faits de l'histoire. Mais ça serait surprenant quand on les dédommage à hauteur de millions de dollars. Là.
Oui, effectivement. On sait d'ailleurs, grâce entre autres à Infoman, que... James William Awad est revenu au pays, est revenu au Canada à l'arrière d'un camion de location U-Haul qu'il a fait traverser la frontière en s'assurant qu'il n'y ait pas de journaliste à la frontière pour l'intercepter. Tout ça, entre autres, parce qu'il l'avait partagé sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, assez spécial tout de même.
C'est toute cette histoire, je sais que ça va vraiment paraître insipide, mais la page Instagram Odescoop est vraiment très, très solide pour vous garder à jour par rapport à toutes les va-et-vient de l'affaire James William Awad. Mais aussi, je mentionnais Elisabeth Rioux ultérieurement, justement, tout ce suivi un peu du monde, du fabuleux monde des influenceurs. Utilisons le terme ainsi. c'est une page que vous pourriez quand même prendre connaissance. C'est sûr qu'il y a des nouvelles là-dedans qui sont peut-être pas super intéressantes. Moi, tout ce qui concerne Occupation Double, je m'en fous.
Voilà, on peut continuer.
Ouais. Exact.
Sur ce, on va passer en nouvelles politiques et on va commencer tout de suite avec le dossier du docteur Luc Boileau et de sa fille Marjorie Côté-Boileau. Le docteur Luc Boileau qui est le directeur national de la santé publique du Québec.
Par intérim.
Par intérim. Et sa fille, elle est présentement l'attachée de presse du ministre de la Santé. santé, ce qui a fait sursauter plusieurs, voyant là une apparence forte de conflit d'intérêts. Eh bien, aujourd'hui, selon le ministère de la Santé, Marjorie Côté-Boileau aurait reçu un avis d'une spécialiste en éthique disant qu'elle pouvait garder son emploi tant et aussi longtemps qu'elle s'assurait de ne pas être en contact professionnel direct avec son père. Donc, elle n'a qu'à ne pas être celle qui gère les médias durant les conférences de presse où M. Boileau est présent et à ne pas être dans les réunions qui concernent les apparences médiatiques du Dr. Boileau. Ce sont les conditions qui sont mises en place et qui étaient déjà respectées depuis les deux dernières semaines où le Dr. Boileau est directeur national de la santé publique. C'est pas encore satisfaisant pour le critique en éthique de l'opposition officielle, le docteur Gaëtan Barrette, qui dit qu'il veut lire le mémo, il veut savoir exactement qu'est-ce qui a été recommandé ou pas par cette spécialiste en éthique pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est toujours un peu louche quand même.
Ça demeure louche, en effet. Ceci étant dit, ce que je constate du gouvernement puis de la gestion qui est faite actuellement de toutes ces questions éthiques, c'est qu'on se laisse beaucoup aller par rapport à tout ce qui est du bon jugement, du gros bon sens. À peu près toutes les décisions, là, on peut un peu les mettre sous ce parapluie-là. C'est un peu douteux, c'est un peu louche, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est quand même, compte tenu qu'elle avait son poste bien avant que M. Boileau obtienne le poste de directeur de la santé publique par intérim, peut-être que l'examen qui a été fait est rigoureux, puis on peut en faire foi. Oui. J'aimerais ça, Guillaume, avoir ton avis, compte tenu que tu es un résident de la Ville de Québec depuis longtemps, que tu as vécu une campagne électorale. Bruno Marchand est sorti au courant de la journée d'aujourd'hui en affirmant que malheureusement, pour la construction du tramway, on devra couper autant d'arbres que ce qui était prévu.
Oui, c'était sa conférence de presse d'hier, deuxième conférence en autant de jours pour faire le point sur la situation, justement, du tramway. La conférence d'hier était dédiée quasiment exclusivement à la question de la canopée, à la question du nombre d'arbres qui seront coupés. Et ça faisait partie des 10 engagements de Bruno Marchand. Il voulait réduire de 60 à 70 % le nombre d'arbres coupés. Et essentiellement, il a réussi à trouver un total de 0 arbre qui pourrait ne pas être coupé. Le nombre d'arbres sera le même, ce qui fait dire à l'opposition officielle qui est l'ancienne équipe Labeaume, je te l'avais bien dit. la solution de M. Marchand, c'est au lieu de planter 5000 arbres tel que l'avait proposé le maire Labeaume, sa solution, c'est d'en planter 30 000. Donc, il dit, pour chaque arbre qu'on va couper, on va en replanter 20, idéalement le plus proche possible, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes arrondissements.
Exact.
On veut conserver la même canopée et on veut conserver également l'impact carbone des arbres. Donc, même si c'est des arbres matures qu'on coupe, il faut qu'on replante beaucoup plus pour être capable de compenser.
Exact.
Donc, c'est du 20 pour 1 qui fait.
Oui, il faut dire quand même que ça, c'est intéressant. Là, on ne va pas que couper des arbres matures. Là-dedans, il y a des frênes qui, eux-mêmes, étaient dus pour être coupés compte tenu de la situation avec la grille. Il y avait beaucoup d'arbres et d'arbustes de petite taille dans certains boisés avoisinants, notamment le boisé de la Certe de l'Université Laval.
Oui, il y a également plusieurs chicots, des arbres qui sont morts, mais qui tiennent encore debout. Donc,
oui,
il fallait abattre de toute façon. Donc, il y a plusieurs arbres là-dedans, mais il y a quand même, on ne peut nier qu'il y a quand même là-dessus au-dessus de 800 arbres matures dans le lot. Donc, quand même, le 20 pour 1, c'est assez rafraîchissant comme changement de la part de l'administration publique. Bon, l'opposition officielle demande où est-ce qu'ils vont les mettre, ces arbres-là, ce qui est une question très pertinente.
Oui, et aussi, on a bien beau planter les 30 000 arbres, il faut bien qu'ils survivent, ces 30 000 arbres.
Oui, effectivement. On sait que ça fait partie des controverses. On en discutait la session dernière autour de c'était la carboneutralité des projets de construction. On se souvient que l'échangeur Turcot à Montréal a été refait récemment. On avait promis de planter 50 000 arbres ou 100 000 arbres, je me souviens plus. Et présentement, il y en avait quelque chose comme 8 000 de plantés et ils font tous présentement 2 pieds de haut. Donc, il faut un certain temps pour que ce soit efficace. Il faut également une bonne gestion. Donc, on va voir si les 30 000 arbres promis par Bruno Marchand vont être faits, vont être plantés de manière satisfaisante, vont également être capables de préserver justement cette canopée urbaine le plus possible.
Puis poursuivons là-dessus, en fait, peut-être en faisant un segway, comme on dit si bien dans la langue de Shakespeare, à l'effet qu'il y a justement le parti d'Éric Duhaime qui semble dire que le sort du tramway va se décider aux prochaines élections provinciales.
Oui, effectivement, le Parti conservateur du Québec est le seul parti qui est officiellement en défaveur du projet de tramway au niveau provincial. Tous les autres partis disent « Ben oui, c'est beau, vous prenez notre argent. » Le Parti conservateur dit « Ben, on va réfléchir à ça, particulièrement s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. » On sait que le dernier sondage léger donnait un appui de seulement 41% au tramway contre 50-quelques% qui était contre, si ma mémoire est bonne. Donc, le Parti conservateur veut en faire un enjeu dans la région de Québec. Il veut avoir un projet qui soit, selon lui, le meilleur pour la ville de Québec.
Ouais. C'est aussi une belle façon de détourner l'attention de ce qui est, quant à moi, l'éléphant blanc, le mammouth, le gros projet, le troisième lien. Hein. Ça, c'est, on parle d'un projet de 10 milliards que d'ailleurs le Parti conservateur du Québec soutient assez aveuglément, si je puis dire. Probablement qu'ils vont trouver un moyen de mettre un petit spin pour avoir l'air plus raisonnable à l'effet qu'ils vont peut-être revoir le tracé ou quoi que ce soit. C'est bien le propre du Parti conservateur du Québec actuellement là, de toujours trouver un peu un moyen d'avoir une mesure d'une position extrême, mais de la justifier. Par rapport, justement, là, il y a le Parti conservateur qui est sorti aujourd'hui en disant que ce n'est pas un parti anti-vaccin, c'est un parti pro-liberté. Donc, on recommande fortement les vaccins, on recommande le port du masque, mais il ne faudrait pas l'obliger, parce que c'est ça, cette vision libertarienne, c'est l'individu prime. Ce qui est une vision qui est assez aux antipodes du mode de vie québécois, là, de vraiment du social, j'ai l'impression.
Mais ça rend reste en ligne assez droite avec l'idéologie d'Éric Duhaime. Éric Duhaime est un libertarien depuis des années et des années et des années. Et ce qui est assez spécial, c'est justement qu'il s'est trouvé une conscience scientifique pour appuyer tout ça. Il y a un médecin de famille de la chute qui a cautionné ses propos en disant « Ben non, moi je trouve que c'est raisonnable d'appeler les gens à se faire vacciner de manière volontaire et libre. » et éclairé d'aller en discuter avec leur médecin. Je pense pas que c'est mal, c'est ça que son médecin a dit. Donc, effectivement, il a réussi, encore une fois, à trouver un espèce de spin pour avoir l'air plus raisonnable que ce qu'il n'est réellement. C'était une réaction au propos de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, qui disait que la division faite par le premier ministre n'allait profiter qu'aux conservateurs d'Éric Duhaime et à leur mouvement anti-vaccin.
Si on y pense bien, c'est une belle façon de contourner tous les écueils qu'ont vécu le Parti populaire du Canada. Vraiment, le PPC s'était concentré sur la population, les électeurs anti-vaccins, sans la moindre vergogne, vraiment sans la moindre retenue, ce qui a vraiment limité leurs poussées électoralistes. Tandis qu'Éric Duhaime, j'ai l'impression qu'il est conscient qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont insatisfaits des mesures sanitaires, qui sont vaccinés, qui essayent de les suivre le plus possible, mais qui disent « ça n'a pas de bon sens ». Et puis, il essaye d'aller chercher ces électeurs là de cette manière-là, notamment dans la région de Québec, en prenant position sur des enjeux qui, à Québec, semblent être quand même assez populaires, comme par exemple l'opposition au tramway et le support au troisième lien, qui, dans le reste du Québec, font peut-être un peu moins d'unanimité. Donc c'est quand même, d'un point de vue strictement politique, là, vraiment théorie politique, je trouve ça une approche intéressante. D'un point de vue politique et idéologique, est-ce que ça me rejoint? Pas du tout. Est-ce que je pense que ça devrait rejoindre les Québécois? J'ose espérer que non et que les gens vont réaliser le subterfuge en cours.
Mais écoute, si ça t'intéresse, je te conseille, et je le conseille régulièrement aux éditeurs et auditrices, le livre écrit par trois professeurs de l'Université Laval, Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec. Je dois le mentionner au moins une fois par semaine.
Écoute, la dernière fois, je pense que dernière émission, on en a parlé aussi. C'est un classique.
C'est un classique, mais on explique entre autres pourquoi est-ce qu'il y a cette opposition idéologique-là entre les supporters du tramway et les supporters du troisième lien. C'est très intéressant et justement, peut-être que Éric Duhaime va être capable de faire le plein d'appui justement dans les banlieues de Québec. On va regarder ça. Se déplacer. On va arrêter de parler du Parti conservateur pour deux secondes. On va aller parler du Parti québécois. C'est rare qu'on le fasse parce que c'est rare qu'ils sont pertinents et dans les nouvelles. Mais là, aujourd'hui, ils le sont parce que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, propose 12 points pour remettre notre système de santé sur pied. Son plan n'est plus de faire une révolution, mais faire des réformes en se basant sur ce qui est connu, ce qui est dit depuis des années. Sa solution, c'est essentiellement écouter les experts, écouter les rapports et faisons l'indépendance du Québec pour avoir tout l'argent qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Je trouve ça toujours intéressant comment est-ce que le PQ réussit à mettre l'indépendance dans tous les sujets. Dans ce cas-ci, effectivement, il y a raison. C'est un problème massif, le financement du système de santé, particulièrement avec Ottawa qui refuse d'hausser les transferts fédéraux. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, la chronique de Michel David dans Le Devoir ce matin. Elle est particulièrement savoureuse à ce sujet. Mais donc, le Parti québécois veut le plus possible redorer sa crédibilité en disant ben on va faire ce qu'on sait qui doit être fait depuis des années. Est-ce que ça va réussir à aller chercher des appuis en dehors des personnes qui écoutent déjà ce que le Parti québécois dit?
J'en doute.
Je sais pas.
J'en doute. Puis pour peut-être terminer un tour d'horizon des autres partis, le Parti libéral du Québec, là, donc Dominique Anglade, qui dit que le troisième lien ne fait pas partie de ses plans. Et du côté de Québec solidaire, là, vraiment actuellement, on tape beaucoup le clou sur la vulnérabilité des personnes face à la contribution santé de COVID et par rapport aux mesures qui sont actuellement en place. Donc je vous invite à aller lire sur le sujet si jamais vous voulez vraiment avoir un tour d'horizon complet des positions de tous les partis politiques au Québec.
Oui, effectivement. On va se déplacer en international rapidement parce que on va continuer à suivre la situation en Ukraine présentement. La Russie qui a toujours ses dizaines de milliers de troupes qui sont postées à la frontière. On ne sait pas s'ils vont intervenir ou non, s'ils vont envahir l'Ukraine ou non. Le Canada a décidé d'envoyer du matériel militaire non létal, comme par exemple des vestes pare-balles. C'est la décision du premier ministre Justin Trudeau, qui d'ailleurs est en isolement pour avoir été en contact avec un cas COVID. Et cette décision-là, elle est fortement critiquée de la part de l'opposition. Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada, nous annonce que c'est une décision qui nuit aux intérêts stratégiques du Canada, qui nuit à la force de l'engagement du Canada envers ses alliés. On sait que le Canada, c'est un des pays avec la plus grande population d'origine ukrainienne au monde, derrière l'Ukraine et la Russie. Donc, quand même. Même la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, est d'origine ukrainienne, a des racines ukrainiennes. Donc, on va voir quel sera exactement l'impact de cet envoi de matériel militaire non létal. C'est à suivre.
Écoute, Guillaume, moi, la situation en Russie et en Ukraine, je pense que cette semaine, je peux pas dire qu'il y a eu énormément d'avancées de ce côté-là. Là. Il y a beaucoup de diplomatie, il y a beaucoup de sorties diplomatiques dans les médias. Mais en soi, est-ce que ça a évolué? Pas tant que ça. Donc, ce que je préférerais faire cette semaine avec toi, c'est parler de deux autres affaires un peu moins discutées dans les médias. D'abord, la très amusante, du moins amusante à mes mes yeux, affaire Prince Andrew. En fait, je dis amusante, c'est quand même une affaire d'agression sexuelle là, envers une personne qui était... Mais dans le sens que la défense du Prince Andrew, pour moi, me paraît complètement saugrenue. D'abord, il a tenté, juste pour mettre un peu de contexte là, pour les auditeurs, le Prince Andrew, fils de la reine Elizabeth, a été pris avec des personnes qui étaient mineures lorsqu'il était ami avec le fameux magnat Jeffrey Epstein et sa conjointe Ghislaine Maxwell, qui a été reconnue d'ailleurs coupable récemment, là, si je ne m'abuse, de proxénétisme. Donc, essentiellement, ce qui s'est produit, c'est que monsieur, le prince Andrew a eu des relations avec une mineure qui, pendant des années, n'a pas agi et qui, récemment, est sortie de l'ombre en disant qu'elle avait eu des relations non désirées avec le prince Andrew. Il a d'abord tenté de se cacher derrière une entente signée entre l'accusatrice et Jeffrey Epstein, qu'il ne le concernait pas, lui, dans l'État de la Floride pour tasser les potentielles poursuites. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il a dit que le témoignage de sa poursuivante était complètement bullshit, compte tenu que, ayant participé à la guerre d'Afghanistan, le prince Andrew n'avait plus la capacité de suer. Donc, lorsque la poursuivante a dit dans son témoignage qu'il avait dansé avec elle et qu'il était en sueur, c'était impossible, il ne suait pas. Donc moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai pouffé de rire. Déjà que sa première tentative de défense était assez ridicule. Mais on apprend cette semaine que le prince Andrew, compte tenu qu'il a été, qu'on lui a retiré tous ses titres royaux et ses titres de noblesse, et même ses titres militaires, ben, il a décidé de faire face à la musique. Il a demandé un procès devant les juges new-yorkais, devant jury. Donc, pourquoi il a choisi cette juridiction-là? Mon interprétation, puis honnêtement, je ne veux pas spéculer, je ne connais pas très bien la juridiction new-yorkaise, mais quand même probable que devant un jury new-yorkais, il y ait des avantages procéduraux pour lui et que quand même le fardeau de la preuve pour sa poursuivante en matière civile soit très élevé. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va être difficile pour l'accusatrice d'avoir gain de cause dans cette juridiction-là. Mais là, ça, c'est ma spéculation, c'est mon interprétation de pourquoi il a pris cette décision-là. Parce que sinon, je vois pas pourquoi le prince irait vraiment faire face à la musique.
Oui, effectivement. On va terminer notre émission en économie. Le taux directeur n'est toujours pas rehaussé par la Banque du Canada. C'est ce qu'on a appris un petit peu à la va-vite hier. Aujourd'hui, en après-midi, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLem, a expliqué pourquoi il devient nécessaire de mettre fin à la plus longue période de prix plancher, de taux plancher au Canada. Le taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque du Canada est au plus bas qu'il n'a jamais été. Oui. Et il va continuer à le rester pour encore au moins 5 semaines. Oui. Donc, le directeur de la Banque du Canada qui a expliqué justement que à cause de l'inflation, à cause du taux d'emploi, de la pénurie de main-d'œuvre, à cause de la hausse du PIB, il devenait nécessaire de rehausser le taux d'intérêt, mais il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait.
Et présentement, on n'a personne qui comprend pourquoi, que ce soit les économistes de la Banque nationale ou de Desjardins ou Gérald Filion de Radio-Canada, personne n'est capable de trouver une explication sur pourquoi est-ce que, mais s'il est capable d'étayer tous ces arguments-là, il n'a pas rehaussé le taux directeur.
Oui, ça semble être contextuel compte tenu actuellement vraiment là, de la frivolité des marchés qui sont extrêmement volatiles. Il y a des énormes baisses. Peut-être que compte tenu de certains indicateurs côté américain, puis de la décision de la Fed de ne pas rehausser les taux elle-même qu'il l'avait fait plus tôt dans les derniers jours. Peut-être qu'on a juste tenté d'éviter qu'une telle décision affecte les marchés. Ceci étant dit, les économistes le soulignent fréquemment. Hausser les taux d'intérêt de la sorte, c'est pas des effets qui se font ressentir dans les semaines qui suivent. On parle d'une année ou une année et demie avant qu'on commence à sentir un effet. Donc, monter un taux de 0,25% alors qu'au mois de décembre, tous les indicateurs étaient au rouge, j'ai indiqué que c'était nécessaire de le faire le plus rapidement possible, c'est quand même assez sidérant, surtout dans un contexte où, là, actuellement, on a l'Agence du revenu du Canada qui commence à se lancer à la recherche des personnes qui auraient réclamé frauduleusement la fameuse PCU au milieu de l'année 2020. On se retrouve dans une situation assez particulière là, d'un point de vue économique et l'inflation semble, je ne veux pas utiliser le terme galoper compte tenu que ça a une connotation économique, là, mais ça semble quand même assez important. Et...
Non, moi je vais l'utiliser. L'inflation est présentement galopante à 5,8% en décembre pour l'indice des prix à la consommation. C'est vraiment très très énorme. On va terminer notre émission juste avec un alerte publique. Il y a présentement un texto frauduleux qui circule au Québec qui vous promet une récompense de 100$ pour avoir pris toutes vos doses contre la COVID-19. Ce texto est une fraude qui vient probablement de la Colombie-Britannique, mais on n'en sait pas plus présentement. Le ministre de la Sécurité numérique, Monsieur Éric Kerr, a dit que si jamais vous avez reçu ce texto, vous pouvez le dénoncer, le signaler aux autorités en textant au 7726. Mm-hmm. Essayez d'avoir un portrait plus global de la situation.
Tout texto non sollicité, normalement, prenez garde.